Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver une énième fois, une 302e fois dans une rencontre of Lille. Et cette soirée, elle est consacrée aux trois des six auteurs finalistes du prix Première Parole du festival Terre de Parole. On a déjà reçu Cécile Tilly, Olivier Sieschelski et Caroline Bouffaud il y a quelques jours. Et maintenant, c'est au tour de Léna Garre, Isabelle Garraud et Éric Chacour. Alors, pour vous faire un bref rappel, c'est Christian Bobin qui a inspiré cette année le festival Terre de Parole, qui se déroulera en juin prochain, du 1er au 8. Et évidemment, vous aurez l'occasion de faire des lectures, des performances, des rencontres littéraires, de théâtre, notamment dans différents lieux culturels de Seine-Maritime. Mais c'est aussi un prix, Terre de Parole, c'est le prix Première Parole pour lequel nous sommes réunis ce soir. Ce prix qui a été créé en 2020, qui sélectionne six premiers romans francophones publiés l'année précédente, donc en 2023, et les trois auteurs qui sont présents ici sont donc finalistes. Et je rappelle que cette sélection est faite par les bibliothèques et librairies indépendantes de la Seine-Maritime notamment, et qu'elle est proposée ensuite aux lecteurs qui sont réunis dans 37 comités de lecture qui représentent environ 400 lecteurs. Et ce prix sera donc remis d'ici quelques mois, en juin, fin juin. Et le lauréat ou la lauréate se verra offrir une bourse d'écriture. Alors, il est 19h ou presque, et c'est Léna Garre qui va ouvrir le bal pour son roman Tumeur ou Tutu aux éditions Verticales. Bonsoir déjà à tous les trois et bonsoir Léna.
Bonsoir.
Alors, Léna, vous travaillez dans l'édition sonore. On va rentrer dans le vif du sujet parce qu'on sait peu de choses finalement de vous et je pense que c'est aussi peut-être volontaire. Mais j'aurais voulu savoir si ce travail dans l'édition sonore vous a aidé, vous a perturbé lorsque vous avez commencé à écrire ce premier roman qui a pris longtemps, de ce que j'ai cru comprendre, à peu près 6 ans. Est-ce que les sons, puisque quand on vous lit, on sait pertinemment que les sons ont clairement une importance, et notamment les sons, les sonorités de la souffrance, est-ce que ça vous a aidé à écrire? Est-ce que ce métier vous a aidé à écrire ce premier roman?
Non, alors pas du tout. C'est un métier que j'exerce depuis 4 ans et demi à titre alimentaire. Je suis régisseuse dans un studio pour pouvoir écrire. Justement, c'est ce que j'ai trouvé de plus efficace en termes de temps argent pour pouvoir dégager des plages horaires pour mon écriture. Donc, non, c'est pas du tout. C'est pas de. Ça s'est arrivé au bout de 2, 3 ans d'écriture de mon livre. Ça m'a pas inspiré, c'est plutôt la manière dont les gens parlent dans la vie en général qui m'inspire.
Alors justement, ça fait 6 ans que vous avez travaillé sur ce roman. Déjà, pourquoi aussi longtemps? Et on en est ravi vu la qualité du roman, mais c'est rare qu'un auteur mette autant de temps à écrire, à accoucher des mots, et notamment via le sujet, on comprend aussi pourquoi ça a pris du temps. Mais racontez-nous cette expérience d'écrivain par rapport à ces 6 années.
En fait, déjà, je pense que j'ai mis très longtemps à comprendre où je voulais aller avec ce livre. Ça a d'abord été beaucoup de tests. J'ai écrit facilement l'équivalent de 10 fois ce qu'il y a dans ce livre. C'est un livre qui est fait en fragments, donc j'ai recomposé mon bouquet garni des dizaines et des dizaines de fois. Et c'est vrai que déjà, tout simplement financièrement, je ne pouvais pas écrire tous les jours, loin s'en faut. Donc j'ai eu des grands moments où je devais travailler et reprendre de l'argent pour ensuite m'accorder du temps. Et aussi parce que émotionnellement, il y avait plein de choses que ça venait toucher, que j'arrivais pas à gérer aussi vite que j'aurais voulu. Enfin, c'était totalement indépendant de ma volonté. J'aurais adoré que ça prenne moins de temps. Et ouais, j'arrivais pas à aller plus vite, ni à trouver le mot que la narratrice cherche aussi.
Alors justement, c'est aussi un roman sur la langue, et notamment la langue des Spartiates. Et je vais lire un extrait pour débuter ce moment avec vous, parce que ce roman, il est aussi extrêmement contemporain. C'est aussi une longue satire sur notre société, finalement. Et vous écrivez, les Spartiates, qui sont donc comment dire, les gens normaux, on va dire ça, entre guillemets, normaux, les Spartiates ont des conversations. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent leur blabla, en tout cas. Moi, je ne vois pas ce qui leur donne l'impression de dialoguer alors qu'ils racontent tous les mêmes choses chiantes à mourir. Leur langue est une grosse matière pastel, tiède et sans goût. Dans ma tête, je l'appelle la polentase. comme une vieille polenta molle avec un abcès flippant, limite vert clair, poubelle directe. Il doit bien leur arriver quelques aventures, pourtant, rien que d'être parvenu à devenir grand. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Comment ils font pour consacrer autant de salive au néant? Qu'est-ce qu'ils cachent? Ils ne peuvent pas être sincèrement préoccupés par la nouvelle station essence. Ils se sentent obligés, ils font semblant, mais ils s'en foutent au fond, c'est sûr. C'est impossible autrement. Ça en dit long aussi sur nos conversations inutiles, sur le vide finalement de, pas le vide de nos vies, mais presque de ces moments qu'on a, de ces injonctions finalement que la société nous impose. C'est aussi un roman sur ça finalement.
Oui, alors je pense que j'ai aussi quand même travaillé une espèce de sentiment d'isolement qui confine au cynisme parfois de cette narratrice qui, elle, se sent perdue dans... Donc elle cherche un mot qui expliquerait tout son mal-être et elle est persuadée que c'est uniquement en trouvant son nom que ça ira mieux. Et donc, comme elle est en quête dans les conversations, c'est vrai que le small talk, comme on dit, donc les conversations banales entre humains du dehors, donc les spartiates, la désespère au plus haut point parce qu'elle a le sentiment que tout le monde pourrait dire la même chose et qu'elle apprend absolument rien à les écouter. Or, elle a une quête urgente et... Et oui, bah évidemment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, ce qui m'amuse, c'est d'entendre des manières de parler singulières. Mais en réalité, quasiment tout le monde a une manière singulière de parler. Et c'est très rare les gens qui font qu'avoir des conversations banales. Et justement, elle cherche quelque chose qui, dans l'intimité, éclairerait toute sa vie. Et elle est désespérée de voir que les gens dans la rue, dans les lieux publics et tout, ont des conversations passe-partout, en fait, et qu'elle n'arrive pas à pénétrer. Leur secret.
Est-ce que c'est justement pour cette raison-là que vous avez décidé d'exclure finalement tout formalisme, tout classicisme dans ce roman? C'est vrai qu'il y a beaucoup de formes, il y a beaucoup de sonorités, il y a beaucoup de langues, il y a beaucoup de vocabulaire, il y a beaucoup de vocabulaire créé aussi, cette nouvelle langue dont on va parler peut-être juste après. Mais finalement, est-ce que c'est justement pour contrer ça que vous avez décidé de créer cette langue qui est une sorte de mélange entre souffrance et amusement, finalement.
Oui, bah, c'est l'histoire d'une narratrice qu'on suit de son an 3 à son an 27. Et elle, son problème principal, c'est de se trouver complètement étrangère à la manière dont les gens parlent, aussi bien dans sa famille qu'à l'école, que de manière plus large dans la société. Et donc, en fait, moi, pour traduire son sentiment d'isolement et d'étrangeté par rapport à la langue, j'ai eu besoin que son propre langage à elle soit curieux, soit tordu, parce qu'elle ne se retrouve pas dans les mots qui sont habituellement utilisés et dont le sens est inversé dans sa tête, parce qu'elle grandit dans un environnement violent dans sa famille, en particulier. Psychologiquement, et que donc toute la langue, elle l'apprend de manière tordue et des mots qui sont associés à la douceur et à la protection dans la tête des gens normaux, comme papa, maman, maison, etc. Elle renvoie à des choses au contraire qui lui font peur.
Et notamment les appellations, les surnoms. Il y a beaucoup de surnoms, il y a beaucoup de noms que cette fille donne à ses parents, notamment Novatchok,
Oui.
Novatchok et Swayze, les deux parents, Petit Prince, Grandou, les frères. Finalement, c'est aussi une manière de rendre la chose moins violente. Ces stigmates de la violence dont vous parlez, de cette cellule familiale qui est à la fois terrible et en même temps on reconnaît aussi beaucoup certaines familles finalement, dans, notamment c'est peut-être le côté extrêmement, comment dire, le côté qui est familier finalement, on reconnaît ces familles-là sans qu'elles rentrent totalement dans une violence absolue, mais sur certains moments on reconnaît des choses violentes, de la violence psychologique, on reconnaît ça autour de nous, on a tous connu ce genre de parents. Même si parfois on se cache un peu les yeux, et vous le dites aussi, la société se cache les yeux, le boulanger ne voit pas, l'épicier ne voit pas, personne ne veut voir finalement,
Ouais, me veut voir plutôt, ouais. Je
personne ne
pense
veut
que...
voir. Et c'est cet aveuglement sociétal aussi que vous vouliez démontrer par cette petite fille, par cette adolescente.
Oui, bah, moi, ce qui me touche, c'est d'abord la violence envers les enfants, ça, oui, mais surtout dans ce livre, je voulais montrer comment, par le canal de silence que nous impose la société, parce que personne, soit ne réagit, soit ne sait comment réagir face à un enfant qui va dire qu'il n'est pas bien chez lui, et aussi parce qu'en France, il n'y a pas grand-chose à lui proposer comme plan B. Et ben, ce silence conduit ces enfants à grandir avec un sentiment de, enfin, une éducation langagière qui est violente et à pas forcément la remettre en question, et donc à la reproduire comme s'ils font eux-mêmes foyer ensuite. Et c'est ce que je trouve grave dans le fait que on laisse passer toutes ces situations d'intimité violente, c'est qu'en fait, ben, c'est sans fin, et quand ces enfants deviennent parents, ils refont la même chose, et pour moi, ça c'est éminemment politique parce que ça met en place les conditions d'une docilité. Hein. Si déjà on réagit pas dans l'intime, pourquoi on le ferait à l'échelle collective, à l'échelle sociale en fait? Donc je trouve que tout part de ce silence-là qu'on impose aux enfants.
Comment on arrive à contrer justement ce silence vis-à-vis de l'intimité, de la protection, de la vie privée? C'est cette difficulté-là qui est importante. Est-ce que vous avez une piste potentielle? Est-ce que le comment on arrive à contrer ça finalement? Cette contradiction-là, elle est terrible et elle se trouve dans différents aspects, que ce soit notamment dans la protection de la société vis-à-vis de la vie privée ou en tout cas des libertés, par exemple, d'un détenu. C'est exactement la même contradiction, le même rapport de force et le rapport d'équilibre. Finalement, là, comment on arrive à pénétrer l'intimité pour éviter ce genre de violence?
Alors, pénétrer l'intimité, je pense pas que ce soit la bonne solution, mais je pense que ça commence par abolir le mythe que tous les parents sont gentils, que toutes les maisons sont bienveillantes et que vivre avec sa famille, ça rend heureux. Enfin, je pense que si déjà on entendait autre chose que ça à l'école, dans les films, enfin, c'est toujours pareil que toutes les minorités, en fait. Pas partir du principe que parce qu'on vit avec son papa et sa maman, tout va bien, et qu'un enfant s'autorisait plus à dire, bah oui, parfois ça va, parfois ça va pas, etc. Ça dédramatiserait déjà un certain nombre de situations, et ça rendrait la chose moins opaque et plus facile à percer, parce qu'il y a des situations de violence terrible où il faut intervenir, c'est sûr, d'inceste, de violence physique, etc. Et puis il y a de la violence plus sinueuse, on va dire, plus sournoise, plus installée, qui pourrait en fait être, à mon avis, calmée assez facilement par la parole si les personnes n'attendaient pas 15, 18, 20 ans avant de le dire. En fait, ce qui crée ça, c'est l'espèce d'abcès qui se noue autour du peu de crédit qu'on accorde à la parole d'un enfant. Et aussi parce que techniquement, il manque de mots pour décrire ce qu'il ressent. Enfin, c'est ça qui est un peu passionnant dans l'apprentissage du langage.
Est-ce que tout à l'heure on parlait de nos sociétés stéréotypées? Est-ce que finalement ce roman il s'inscrit aussi dans cette volonté de faire tomber ces stéréotypes par la poésie? Parce que ce roman-là il est aussi empreint d'une certaine poésie, même si elle est différente peut-être, mais c'est clairement une poésie. Est-ce que c'est ça le combat finalement? Est-ce que ça permet de combattre?
Bah, la poésie, pour moi, c'est une langue qui est belle, donc c'est extrêmement subjectif. Mais dans ce qu'il y a de combatif, oui, parler toujours pour moi sera une fenêtre extraordinaire et la solution à tout. Parler le plus possible de tout, à inventer tous les mots dont on aura besoin pour pouvoir tout dire à tout le monde. Et il y aura toujours une manière de s'en sortir par le langage, j'espère. C'est ma croyance, en tout cas, avec la poésie ou autre. Ça peut être avec les maths.
Notamment. Alors, ce qui vous rapproche aussi de l'ouvrage d'Isabelle Garraud, c'est aussi le fait que ces victimes se vengent ou en tout cas répètent la violence aussi. Il y a ce principe de déterminisme, peut-être. Est-ce que vous l'avez ainsi vu? Est-ce que vous l'avez vu ainsi? Est-ce que finalement la violence entraîne forcément la violence?
Alors, la causalité, elle est inverse, c'est-à-dire que 100% des enfants maltraités ne deviennent pas des parents maltraitants. En revanche, 100% des parents maltraitants sont d'anciens enfants maltraités. Donc, ça, oui, c'est des comportements qui ne s'inventent pas, c'est des comportements qui se reproduisent, avec des gens qui n'ont pas pu se libérer de cette souffrance-là. Et oui, je crois. Enfin, c'est au-delà de l'observation, c'est statistique, il y a énormément de chiffres là-dessus. Oui, évidemment, la violence crée de la violence, oui. Quand on n'a pas d'outils pour s'en sortir autrement.
Ce qui est fascinant aussi dans votre roman, c'est qu'on annote beaucoup parce que vous donnez quelques pistes finalement. En marge, on a des craintes, clairement, des interrogations, et on se dit non, elle ne va pas aller là. Peut-être que si, fille, elle, véritablement, elle va peut-être y aller. Vous l'écrivez avec une telle, une douce cruauté finalement, que nos repères sont en train de s'effacer quand on vous lit. Comment on traite l'horreur avec autant de peau et douceur pour plagier votre procédé?
C'est gentil, j'aime beaucoup. Je sais pas, je me rends pas compte de cette peau et douceur. Bah, c'est ça, tout repose sur la croyance qu'on doit pouvoir. Cette petite fille, elle se dit si je suis détestée par ma mère, si mon père s'en fout, etc., c'est parce que j'ai pas réussi à bien expliquer moi quel était le problème. Et elle, tout ce qu'elle a envie, c'est d'aimer ses parents et que ses parents l'aiment et que ça se passe comme dans les films et comme on dit à l'école, que tout se passe bien à sa maison et que c'est super. Donc, je pense qu'avec son langage d'amour qui n'arrive pas à exister dans cette famille difficile, violente, ben elle essaye de contourner le quotidien en plaçant ce qu'elle a d'amour à mettre dans son foyer.
Cette famille dysfonctionnelle, justement, comment vous la... Alors, je ne sais pas si on peut appeler dysfonctionnelle. Je pense que oui, mais après, c'est peut-être aussi subjectif. Pour le coup, comment vous la décririez? Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses dans cette famille, et on ne va rien dévoiler non plus, mais dès le début, on voit quand même certains éléments qui sont frappants de cette violence psychologique, de ces allées-venues, notamment au sein même de la prison, comme vous l'appelez. C'est toujours très intéressant de voir que chacun peut aussi y mettre les mots qu'il souhaite derrière, parce qu'il y a plusieurs possibilités aussi. Le langage a cette faculté-là. Mais comment vous la décririez, notamment avec ces relations entre cette fraternité également, qui est là, mais finalement qui n'aide pas tant que ça, et quand même une dichotomie entre le monde adulte et le monde enfant.
Et comment je décrirais quoi, pardon?
Cette
La
famille dysfonctionnelle.
dichotomie? Ah. Oui, bah, je crois. Bon, après ça, je précise que c'est le premier tiers quand même. C'est l'histoire de cette narratrice qui a 27 ans. Donc après, comme je disais, moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'on fait de la violence quand on a grandi dans un climat violent, dysfonctionnel, et qu'on ne nous a pas donné d'outils sociaux pour remettre ça en question. Donc tous les enfants considèrent que c'est à cause d'eux. Qu'est-ce qu'on fait de ce paquet de nerfs quand on arrive dans la vie des grands, puisque les enfants qui souffrent ont tendance à se dire que quand ils vont partir de chez eux, tout ira mieux. Et en fait, c'est plutôt là que les problèmes commencent, je crois, et que là, c'est un sujet qui est encore plus abandonné. Et c'est ça aussi mon titre, Tu meurs ou tu tues. Pour moi, c'est les deux seules solutions de la violence si on la regarde pas en face, si on la traite pas, en fait. C'est-à-dire, soit on décide de l'exprimer, donc de reproduire, donc tu tues, soit on la garde en soi pour ne pas reproduire, mais c'est comme quelque chose, une bombe à retardement, comme une tumeur. Et qui éteint doucement. Et donc, bah, une famille dysfonctionnelle comme celle de la narratrice, qui a en plus a en apparence, au contraire, a l'air d'être une famille extraordinaire, que tout le monde envie, etc. Donc, qui fait grandir cette fratrie dans un mensonge, en fait, dans une vitrine, bah, est une bombe à retardement, c'est ça.
Cette narratrice, elle a un don, selon sa mère, de toujours poser les questions qui mettent mal à l'aise. Alors, j'essaye de ne pas en faire ce soir, promis. Mais
Ah ben...
est-ce que c'est quelque chose qui aussi vous caractérise peut-être?
Peut-être, c'est possible. Oui, bah moi, c'est plutôt que j'ai jamais compris pourquoi, si les choses m'étaient mal à l'aise, justement, fallait pas les dire, puisque si ça met mal à l'aise, c'est que c'est problématique. Donc, il vaudrait mieux en parler, comme ça, après, on n'y penserait plus.
C'est une bonne réponse.
Bah non, mais ça, c'est une vraie incompréhension. J'ai jamais compris pourquoi fallait pas parler des choses qui fâchent ou qui font mal ou. Mais sincèrement, j'ai 34 ans, j'ai toujours pas compris.
Très bien. Il y a aussi des poèmes, alors des poèmes entre guillemets, qui sont quand même frappants, là aussi, notamment celle de Tends tes doigts. Je ne sais pas si c'est un extrait que vous avez choisi ou pas, mais
Non.
ces poèmes-là qui sont, ça représente un peu ce que je disais tout à l'heure sur cette poésie douceur où finalement vous arrivez à faire passer des choses parfois un peu horribles, mais avec une telle finesse que on s'en rend même plus compte.
Alors, Tends tes doigts, c'est une chanson que la mère a écrite à sa fille. Non, c'est
Elle
ça. Oui.
écrit une chanson à chaque enfant d'ailleurs.
Oui, voilà. Mais non, non, ça, c'est vraiment c'est la bouée de secours de l'humour pour raconter un truc horrible, voilà, qui est que elle demande à ses enfants de tendre leurs doigts quand elle est en colère pour leur taper dessus avec une règle. Et je sais pas, c'est l'instinct de survie. De la petite fille qui en fait une chanson pour, je sais pas, en rire.
Mais en poésie. Avec des rimes.
De c'est ça. C'est
Est-ce que
le
vous me feriez le
problème.
plaisir de nous lire un extrait, Léna, de Tumeur ou Tutu,
Oui.
pour que certains voient aussi la richesse de la langue?
Alors, j'ai pas choisi un extrait d'enfance.
D'accord.
Ça va aller?
Ça
Je
ira,
peux en
ça
faire si
ira.
vous voulez. Je peux changer.
Non, non, c'est très bien, si.
Donc là, la narratrice a environ 19 ans, 20 ans. Elle est partie de sa prison. Elle a découvert les mathématiques et elle est donc toujours en train de chercher son mot qui l'obsède, qui caractérise selon elle la créature qui l'habite et qui solutionnerait toute sa vie quand elle va le trouver. Donc ce fragment s'appelle La Muse. Puisque tout le monde dort ou fait semblant. Je passe mes nuits à graver des formules de maths le long des arbres pour tenter de clarifier les termes de mon équation. Je suis à quatre pattes sur un capot de bagnole, tendu vers mon street ouvrage, quand une voix claire dans mon dos demande jusqu'où je compte aller exactement avec ce pauvre être. Je me retrouve nez à nez avec une bourgeoise qui doit habiter dans la rue. Rien à battre, je lui dis juste de se détendre. C'est pas des croix gammées, c'est des identités remarquables. À la base, c'est un truc de rapidité de calcul. En gros, tu concatènes des expressions pour simplifier les écritures. Et du coup, je m'en sers pour dégager des groupes de mots inutiles de ma tête en espérant isoler plus vite l'inconnu qui enserre mes tonsilles et dont je cherche le nom depuis des siècles. Bref, il y a moyen d'être tranquille ou c'est la police des arbres? La bourgeoise ne s'appelle pas Marie Sixtine, mais la Muse, comme le passage que se crée le petit gibier dans un buisson pour pouvoir s'enfuir quand il est pourchassé. Je trouve ça joli, mais c'est pas comme si c'était elle qui avait choisi son prénom en même temps. Ouais, cool. Et donc, la muse me toise avec circonspection. Elle se tape complètement de l'étrangère qu'il peut bien y avoir dans ma gorge, chacun sa merde. En revanche, ça ne veut rien dire en serrer des tonsilles. Les tonsilles, c'est plat. On ne peut pas encercler un truc plat. À tous les coups, je confonds avec l'aluette. C'est bien d'être attaché aux formules et d'avoir de la répartie. Mais si le but est de trouver un mot, ça ira sans doute plus vite en n'employant pas tout et n'importe quoi. Les gens veulent être compris, mais ils sont pas foutus d'être précis, putain. La révolte obsessionnelle de cette muse est prodigieuse. Elle se marre quand je lui dis qu'avant de m'expliquer la vie et la précision, elle devrait commencer par appeler ce être un chêne. Je ne sais pas ce qui brille soudain dans son regard, mais elle me demande de l'appeler le lendemain. Je vais m'arrêter là.
Merci Léna. Est-ce que
Merci.
d'ailleurs, parce qu'il y a un chapitre qui s'appelle Prison Break,
Ouais.
est-ce qu'il y a aussi, est-ce que vous êtes entre guillemets façonné par cette nouvelle langue? Est-ce que dans le quotidien, finalement, vous arrivez aussi à parler ainsi? Est-ce que c'est un détournement de votre roman finalement? Est-ce que le roman est tellement imprégné et cette langue est tellement imprégnée que parfois vous faites des écarts? Est-ce que ça vous arrive?
Oui, bah, moi j'ai toujours adoré les jeux de mots. Je suis passionnée de chansons françaises, donc très souvent, quand il y a un début de phrase comme ça que j'entends, ça me fait rebondir sur des paroles de chansons que j'adore et tout ça. Donc souvent, je m'amuse avec ça. Et maintenant qu'il y a tous ces nouveaux mots à mon vocabulaire, oui, je m'en sers. Pour moi, c'est plus clair de dire présent que de dire maison par rapport à ce que je veux signifier.
Ah bien, même si la maison est entre guillemets saine.
Oui, la maison et ça, enfin l'appartement. Hein, j'habite à Paris. Je n'ai pas de maison. Donc pour l'instant, la seule maison que je connais, c'est une prison.
Très bien. J'ai vu qu'en épigraphe était cité Frantz Fanon, c'est pas anodin. Est-ce que ça fait partie des auteurs qui vous ont façonné aussi? Et est-ce que c'est l'auteur que vous avez choisi, l'auteur méconnu que vous avez choisi
Non, pas du tout. Déjà, je pense qu'il est connu. Mais non, mais ce qui me fascine chez Fanon, c'est son travail, enfin, c'est le travail qu'il a fait sur la langue du colonisé, justement, et comment celle du colon va imprimer si fort le colonisé que lui-même va avoir un discours auto-dénigrant. C'est pour ça que j'ai choisi cette citation, parce que c'est le même processus, selon moi, des adultes vers les enfants. Et c'est un psychiatre passionnant. Et non, moi, j'ai choisi de parler pas vraiment d'une autrice, mais d'une chanteuse. Parce que ce que j'aime le plus, c'est quand même les formules. Donc, ça peut être, ça peut être de la poésie, des slogans, des chansons, surtout. J'aime ce qui fait mouche en 8 mots plutôt que le long cours. Et donc, elle n'est pas du tout méconnue, mais j'ai envie de parler d'elle parce qu'elle me manque. C'est Diams, qui est pour moi la plus grande déesse de la formule de tous les temps, quoi. C'est mon maître depuis 20 ans. Voilà, j'aime tout ce qu'elle fait.
Je n'en attendais pas moins de vous, Léna, sur le choix. En effet, c'est improbable, mais c'est vous. Voilà. Merci, Léna. Merci infiniment.
Ben, merci à vous.
Et vous êtes en lice pour Tumeur ou Tutu aux éditions Verticales. Bonne
Merci.
chance, Léna. Merci.
Merci.
Alors, on va continuer notre soirée avec un deuxième auteur, deuxième livre. C'est Éric Chacour pour son roman Ce que je sais de toi aux éditions. Philippe Ray. Alors là aussi, le roman a beaucoup fait parler depuis sa sortie. Mais en préambule, Eric, vous êtes né dans une famille syro-libanais d'Égypte. Vous avez vécu une grande partie de votre vie en France et vous êtes québécois. Ce que j'aimerais savoir, c'est que, étant donné que l'épigraphe dit merci entre guillemets à ceux qui vous ont quasiment réconcilié peut-être avec l'Égypte, à ceux et ensuite à celles, racontez-nous cette histoire-là déjà sur le fait que peut-être l'Égypte vous a le roman ou l'Égypte, je ne sais pas dans quel sens il faudra le prendre, mais l'un des deux a peut-être fait vaciller vos convictions ou en tout cas votre identité. Qu'est-ce qui s'est passé vis-à-vis de l'Égypte durant toutes ces années?
Bonjour Anthony, enfin bonsoir, c'est plus tard chez vous que chez moi. Je ne sais pas si j'emploierai le terme réconciliation. Je me suis jamais disputé avec l'Égypte. C'est un pays où je conserve beaucoup de beaux souvenirs, où je vais régulièrement aussi, où je vais à peu près. Alors à une époque, j'allais presque tous les ans là-bas. Et c'est un pays. Alors comme dans toute relation avec un pays ou avec une personne, je n'apprécie pas tout et je suis parfois sévère, critique ou déçu. Mais non, ce n'est pas une réconciliation, c'est vraiment un pays que j'ai appris à aimer à travers les membres de ma famille surtout. Mon père quand on allait là-bas, ma mère, mes tantes, j'ai encore un peu de famille qui habite là-bas. Et j'avais envie de reconstituer un peu l'Égypte de leur enfance, parce que finalement, l'Égypte que moi je vois quand je me rends là-bas, elle est très très différente de celle qu'ils ont connue. Et pendant longtemps, j'ai eu du mal à faire le lien entre tout ça. Je me disais, bon ben, j'ai grandi avec des amis de mes parents qui sont tous francophones, qui sont assez occidentaux dans l'âme. Puis quand je me rends en Égypte, personne ne parle français, c'est très très différent, l'ambiance n'est pas la même. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est tout le pays qui a changé? Ou est-ce que, puis j'ai fini par comprendre que c'était surtout cette deuxième hypothèse, est-ce que finalement ce que je connaissais moi de l'Égypte en tant que gamin, ce n'était pas l'Égypte d'une communauté très minoritaire, une communauté de Levantins qui habitait là-bas, qui était d'origine syrienne, libanaise, parfois palestinienne, et qui était assez différente du reste de la population.
Alors, je vais essayer de ne pas vous poser trop de questions simples, puisque le père de
Ah.
Tarek, Thomas, s'en méfiait beaucoup. Justement, quel est le point de départ finalement de ce premier roman qui a été convoqué en premier? Est-ce que ce sont les personnages ou est-ce que c'est la Grande Égypte des années 60 à 2000? Qu'est-ce qui a forgé votre fort intérieur finalement pour écrire?
Alors le roman a failli s'appeler Les questions simples, donc ça me fait sourire que vous rebondissiez dessus. Qu'est-ce qui a forgé d'abord l'histoire? En fait, l'intention de départ était un peu différente de ce que le roman a été par la suite. Moi, dans ma tête, j'avais envie de calquer vraiment. Alors j'avais mon histoire, je savais ce que je voulais raconter, une histoire de famille, une histoire d'amour. Mais j'avais envie de calquer un peu l'histoire de l'Égypte, la grande histoire de l'Égypte, sur celle de mon personnage. Parce que je me disais finalement, quand on regarde, l'époque nassérienne en Égypte pourrait correspondre à une certaine forme d'enfance où d'un coup on a l'impression qu'on peut dire non au monde entier, puis tout est possible et ça finit par marcher. Puis il y avait une certaine, voilà, dans les politiques que Nasser a menées, il y avait quand même une certaine forme de comment dire,
D'euphorie.
d'euphorie, peut-être un peu d'angélisme, etc. Enfin, des choses qu'on peut rapprocher de l'enfance. Qu'il y avait quelque chose chez Sadat qui procédait plus du cynisme, en tout cas de l'âge adulte ou d'une certaine réalité qui finit par ressurgir. Et que chez Moubarak, il y avait certainement l'abandon de beaucoup de valeurs au profit d'une certaine recherche de sécurité à tout prix. Et la recherche de sécurité, c'est souvent quand on est en situation un peu plus vulnérable, c'est quelque chose qui peut arriver vers la fin d'une vie aussi. Et donc, je me disais, voilà, ça pourrait être quelque chose d'intéressant d'essayer de plaquer l'un sur l'autre. Je me suis pas mal éloigné de cette idée-là, mais j'en ai gardé encore quelques traces qui se retrouvent, je pense, dans le roman.
Beaucoup de traces en effet, puisqu'il est quand même. C'est vraiment cette trame de fond qui donne aussi beaucoup plus de corps au roman, parce que là, clairement, c'est aussi cette reconquête finalement de l'identité arabe et musulmane, comme vous l'écrivez, et notamment ce patriotisme finalement qui fait basculer un pays, qui fait basculer un pays, peu importe finalement le destin qu'il a, mais ça donne une trame vraiment supplémentaire aux personnages, et j'aimerais que vous nous parliez de ces personnages-là, Tarek notamment, ce médecin qui crée un dispensaire à Mokattam dans un quartier extrêmement pauvre. Il a quand même, c'est un roman sur les destins, finalement, sur le destin. Est-ce que vous croyez au destin? On sent chez vous, en tout cas, il y a une nostalgie, mais il y a aussi cette volonté de croire à l'avenir, de croire à des destinées particulières. On sent chez vous un grand humanisme, finalement.
Je ne sais pas s'il y a une nostalgie chez moi, puis ce serait d'autant plus curieux qu'une nostalgie d'un pays que je n'ai jamais vraiment connu, en tout cas tel que je le décris, ce serait pour le moins un sentiment un peu usurpé ou en tout cas curieux. Non, non, je pense pas être nostalgique, mais j'aime cette Égypte-là. J'aime cette Égypte où mes parents, leurs cousins, leurs familles, etc., leurs frères et sœurs allaient au club sportif, et puis chercher des vieux vinyles de Françoise Hardy, de France Gall, puis les écouter comme s'ils étaient des gamins qui vivaient en France à cette époque. J'aime cette Égypte qui était assez ouverte sur le monde, qui se réinventait un peu différemment, qui était un peu le phare de l'information, de la culture, avec un certain mouvement des Lumières qui s'appelait la Nahda, qui était voilà, un peu l'équivalent des Lumières qu'on a connues en France, quelque chose qui révolutionnait le courant de pensée. C'est sûr que je m'en sens proche. Est-ce que j'en suis nostalgique? Non, non, l'Égypte a fait d'autres choix et puis elle a une évolution qui lui ressemble, qui lui est peut-être plus naturelle par rapport à l'ensemble de sa population. C'est pas la nostalgie qui me modèle quand j'écris. J'avais envie de raconter une histoire. Et Tarek, puisque vous m'interrogez sur lui, Tarek, c'est un garçon qui ne se pose pas de questions, qui ne se pose pas les questions simples dont vous parliez tantôt, qui avait une vie qui était un peu programmée pour lui. Elle était simple, elle était toute tracée, sa vie. Elle était faite pour un bonheur assez confortable. Mais je pense que les bonheurs confortables ne font pas forcément des très bons romans.
En effet. Alors, notamment sur le fait que on interroge aussi Tarek sur le fait de savoir quand commence une vie. Il s'interroge aussi, tu ne savais pas quand commencerait la vie. Petit, tu étais un élève brillant. C'est intéressant de savoir quand commence la vie, finalement. Est-ce que vous avez répondu à cette question aussi? Elle commence quand votre vie, Eric Chacour?
Elle commence. Oh, je n'ai pas de grande, de grande vérité à révéler ce soir sur ce sujet-là. Je pense qu'elle commence, et ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup, mais elle commence à partir du moment où on se comprend soi-même. Je pense que pendant très longtemps, on essaye de vous inculquer des modèles, on essaye de vous expliquer qu'un homme doit agir comme ça, quelqu'un de telle société, de telle religion, de ci, de ça, doit agir selon une grille de lecture qui vous est donnée. Et je pense voilà, pendant très longtemps, on essaye d'absorber un peu tous ces codes qu'on vous donne. Et puis, il y a un moment où on finit par comprendre un peu mieux qui on est, on finit par comprendre pourquoi est-ce que parfois on a des réactions qui sont très viscérales face à certaines situations, alors qu'il y en a d'autres sur lesquelles on réagit beaucoup moins que le reste de notre entourage. On finit par comprendre ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal. Et on essaye de se composer une vie qui nous ressemble à partir de ça. Je pense que c'est ça, l'âge adulte. Et je pense surtout que tout le monde n'y arrive pas. Moi, j'espère y arriver, mais je pense que ce n'est pas quelque chose de... Ça ne vous arrive pas à 18 ans et un jour. C'est la recherche parfois de toute une vie, d'essayer de se comprendre, de comprendre ses réactions, et puis de former une existence qui vous ressemble.
Est-ce qui vous rapproche peut-être du roman de Léna, c'est peut-être cette passation de l'âge enfant à l'âge adulte où vous écrivez, il n'y a pas d'adulte au comportement d'enfant, il n'y a que des enfants qui ont atteint l'âge où le doute est honteux.
Alors c'est drôle, c'est le petit extrait que j'avais prévu de lire,
Parfait, il est
mais c'est parfait. On prépare un peu le terrain. Oui, c'est une petite réflexion sur l'enfance. Je pense que c'est fascinant quand on est enfant. On a l'impression que le monde des adultes, c'est un monde de connaissances absolues. On a l'impression que, voilà, à chaque fois qu'on a une question, il y a un adulte pour avoir une réponse, et puis la réponse est assénée avec tant d'assurance qu'on se dit que forcément un adulte a la connaissance pleine et entière d'à peu près tout. On vous apprend aussi une religion, bon, que vous n'auriez pas pu tirer de votre pouce. Donc, à un moment, on se retrouve avec tout un tas de choses qui nous sont assénées, puis on est dans une zone où à chaque fois qu'il y a un début d'inconfort mental, on appelle un adulte et il vous donne une réponse. Et puis en grandissant, on se rend compte que tout ça, c'est très fragile. On se rend compte que les religions qu'on vous a imposées, ben, elles tiennent beaucoup du hasard de celles qu'avaient vos parents, mais ça s'arrête à peu près là. Elles ne procèdent pas d'une réflexion où on s'est dit, tiens, laquelle est la plus correspond le mieux à ce que je voudrais. On se rend compte que les réponses toutes faites des adultes sont loin d'être aussi parfaites qu'on ne pourrait le croire. Et voilà, moi, ça m'amuse d'essayer de retrouver dans ma propre enfance les petites réflexions que j'avais ou les petits amusements que je pouvais avoir par rapport à ce monde des adultes. Et aussi ce truc que j'idéalisais un peu. Moi, je garde pas un souvenir impérissable de mes années d'école. J'étais plutôt bon élève, ça se passait bien, mais j'avais l'impression qu'il y avait un truc qui allait arriver après. Et j'avais hâte au truc qui se passerait après. Et je me rends compte que je prends beaucoup plus de plaisir aujourd'hui à vivre dans l'instant.
Ça ne m'étonne pas que vous ayez choisi cette page, puisqu'il faudrait peut-être. J'ai failli l'arracher pour l'encadrer. Alors j'aimerais bien que vous nous la lisiez pour rester sur le
Alors,
sujet, Eric. Merci.
moi, je ne l'ai pas arraché, donc je peux vous la lire. La vie commencerait plus tard. Pour l'heure, ce n'était pas la vie. C'était une attente, un répit peut-être. L'enfance, une lente préparation. À quoi te préparais-tu? Ou plus précisément, à quoi te préparait-on? Tu appréciais davantage la compagnie des adultes que celle des enfants de ton âge. Tu étais ébloui par ceux qui n'hésitent jamais, ceux qui, avec le même aplomb, peuvent critiquer un président, une loi ou une équipe de football. Ceux dont chaque geste semble affirmer qu'ils détiennent la vérité pleine et entière. Ce qui réglerait en un claquement de doigts les questions de la Palestine, des frères musulmans, du barrage d'Aswan ou des nationalisations. Tu finissais par croire que c'était cela l'âge adulte, la disparition de toute forme de doute. Un jour, il t'apparaîtrait pourtant avec évidence qu'il n'existe que très peu d'adultes véritables, que nul ne se départ tout à fait de ses peurs originelles, de ses complexes adolescents, du besoin inassouvi de venger ses premières humiliations. Oh, on s'étonne encore de déceler une réaction puérile chez un de nos semblables, mais c'est une grossière erreur. Il n'y a pas d'adulte au comportement d'enfant. Il n'y a que des enfants qui ont atteint l'âge où le doute est honteux, des enfants qui finissent par se conformer à ce qu'on attend d'eux, qui renoncent à la moindre remise en question, affirment sans plus trembler, méprisent la différence. Des enfants aux voix rauques, aux cheveux blancs, à l'alcool facile. Bien des années plus tard, tu finiras par comprendre qu'il faut les fuir quoi qu'il en coûte. Mais en ce temps-là, ils te fascinaient.
Merci, Eric. Alors justement, cette construction du roman, finalement, puisque il y a trois grandes parties, toi, moi et nous, sans en dévoiler trop, comme toujours, puisque certains ne l'ont pas encore lu, évidemment, mais comment vous avez construit finalement ce roman? Qu'est-ce qui a gravité autour des personnages? Parce que les époques sont différentes, il y a des allées et venues, il y a des va-et-vient récurrents. Comment on construit un roman finalement, qui a autant de matière humaine et de matière, comment dire, de matière territoriale, finalement.
On le construit avec avec un fichier Excel. Moi, je fais mon plan sur Excel. Je fais un plan très, très détaillé, très précis, et je regarde ce que j'ai envie de raconter chapitre par chapitre. J'y mets beaucoup de temps, beaucoup de sueur. J'essaye vraiment de savoir comment les chapitres vont s'entrecroiser, qu'est-ce qui va amener à quoi, qu'est-ce qui peut donner envie au lecteur ou à la lectrice de tourner la page. Et quand j'ai fini ce plan-là, je me mets à écrire. Et je me mets à écrire parfois dans le désordre. Dans le désordre parce que j'ai la chance de savoir exactement où je m'en vais. Et je sais que je vais retomber sur mes pieds parce que je connais mes chapitres. Et donc, si je suis motivé par le chapitre sur le mariage, ben je me lance sur le chapitre sur le mariage. Et si j'ai envie d'écrire le chapitre sur l'enfance qui se passe bien avant et que le chapitre sur le mariage est déjà écrit, ben je me lance sur le chapitre de l'enfance. Et je sais qu'à la fin, je vais à peu près retomber sur mes pieds puis essayer de simplement refaire un peu les coutures et m'assurer que ça coule bien. Donc moi, je fais partie de ces gens qui ont besoin d'avoir un plan. Alors peut-être que c'est une faiblesse ou quelque chose qui nous rassure, mais voilà, je sais que moi, ça m'aide pour essayer d'organiser ma pensée.
Alors, on a parlé de Tarek, mais on n'a pas parlé encore de son père, peut-être, de son père médecin, et parce que j'ai l'impression aussi que c'est un roman sur la transmission. La transmission est totalement, elle est totale finalement. Elle est de ce père à Tarek, mais également de Tarek à Ali. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses sur le fait de transmettre, que ce soit un métier ou de transmettre évidemment des émotions, mais aussi des gestes, des choses qui vont rester. Est-ce que cette transmission-là, elle est aussi au cœur de votre projet littéraire?
J'aime beaucoup cet angle-là et je pense qu'on m'a jamais interrogé sur cet aspect-là, donc je trouve que c'est assez chouette de le voir de cette manière. Oui, je crois qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont trait à la transmission. Je pense que les pages sur l'enfance là que j'ai lues, c'était quelque chose qui a trait aussi à la transmission. L'enfance, c'est une période où on vous transmet un certain nombre de préceptes, de manières de vivre, d'usages, etc., de codes. Je crois que c'est surtout un roman sur le conditionnement. Sur la manière dont une vie peut être prévue pour vous et la capacité que vous avez à en sortir ou pas. Je crois que le personnage d'Ali, par exemple, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas aux contraintes qu'on lui pose, qui essaye de sortir de sa condition d'une manière qui lui ressemble, qui un jour va découvrir la médecine à travers cette transmission que vous citez avec Tarek. Et qui agit avec beaucoup plus de liberté que Tarek. Ali, c'est une sorte de vent de fraîcheur, de liberté absolue qui souffle sur une vie, celle de Tarek, qui était assez morne, qui était assez prévisible et assez confortable.
Excepté sa rencontre avec Mira. Pour le coup, c'était peut-être le seul élément qu'il n'aurait peut-être pas pu prévoir, finalement.
Oui, et encore, ça reste très. Oui, moi je l'aime bien cette histoire d'amour, puis je trouve qu'on m'interroge pas souvent d'ailleurs sur l'histoire d'amour de Tarek et de Mira que je trouve assez jolie, que je trouve assez fine. Et c'est vrai qu'elle est enfin assez fine dans le sens assez amusante dans la manière dont elle s'est construite, mais ça reste quelque chose qui est dans l'ordre des choses pour lui, c'est-à-dire qu'il se marie avec une fille qui fréquente les mêmes écoles que lui, même si elle est d'une condition légèrement en dessous. Il finit par se marier avec une amie d'enfance, avec qui il partage la religion. Bon, on reste sur un modèle familial qui se reproduit. Alors oui, bien sûr, la rencontre est un peu particulière, les retrouvailles aussi le sont, mais ça reste quand même de l'ordre de l'établi, de ce que sa société attendait de lui, de ce qu'elle pouvait entendre. La rencontre avec Ali va être assez bouleversante pour tout un tas de raisons, parce que là, on n'est plus du tout dans ce que la société attendait de lui. On n'est plus du tout dans ce que sa communauté à lui attendait de lui, dans ce que sa famille pouvait attendre de lui. Et c'est ça qui va créer une sorte de tourbillon.
Elle est bouleversante également pour la mère d'Ali, qui est un personnage extrêmement important aussi du livre. Cette mère à qui Tarek promet quelque chose. Je ne sais pas si on peut en dire, je sais pas. Je sais pas si on peut dire quoi que ce soit, mais on en a quand même un petit peu parlé quand même sur la transmission. On en a un peu parlé, mais cette mère d'Ali et Ali en lui-même, c'est quand même Ali qui finalement appelle Tarek pour essayer de guérir sa mère. Cette mère-là aussi, elle a quelque chose de. On sent qu'il y a quelque chose de familial, on sent qu'il y a quelque chose de personnel aussi derrière ce personnage-là. On imagine, on en a vu quelques-unes de mères et de grand-mères ainsi dans certains romans, mais celle-là, elle a quand même quelque chose de singulier. Elle est à la fois différente et surprenante. Racontez-nous cette histoire de la mère d'Ali, peut-être. Je ne sais pas s'il y a une anecdote particulière derrière elle, mais elle est quand même particulièrement bien écrite.
Ben je vous remercie. Je vous remercie pour ça. En fait, c'est vraiment l'espèce de paradoxe dans lequel j'étais, c'était que j'avais une histoire qui était très contextualisée. Et on a commencé par là, hein, parler de l'Égypte, parler de son évolution politique, d'une sorte de société en pleine ébullition, etc., etc. Avoir quelque chose de très contextualisé, c'est parfois un peu bloquant parce qu'on a l'impression qu'on n'arrivera pas à toucher les gens. Et moi, je n'avais pas envie de tomber dans une sorte de, comment dire, de roman exotique ou de truc un peu. J'avais envie que les gens puissent rentrer dans cette histoire facilement. Et la meilleure manière de rentrer, c'est à travers les personnages, à travers les réflexions qu'ils se font, parce que je crois que c'est ça, voilà, cette espèce d'humanité qui transcende les cultures, qui transcende les générations. Bon. Et la mère d'Ali, pour moi, c'est un des personnages auxquels je pense qu'on peut se rattacher, parce qu'on a tous connu, parfois même ça peut avoir été sa propre mère, on a tous connu ce genre de relation entre une mère qui aime son enfant au-delà de tout, qui se battrait pour lui, qui est un peu une lionne, qui en même temps a beaucoup d'humour, qui a sa fierté. Moi, j'avais envie d'un personnage qui soit assez attachant. Et puis, c'est vrai que quand j'avais des scènes avec elle, ben, j'étais heureux de la retrouver. Il n'y en a pas tant que ça dans le livre. Il n'y en a pas tant que ça parce qu'on comprend assez vite qu'elle est condamnée. Mais sa maison, je la voyais. Et l'ambiance de ces moments où ils faisaient passer leur cassette de Mohamed Mounir en fond sonore comme ça, et les éclats de rire, et puis la télé qui retransmet mal en noir et blanc les images de Nasser, ben, je les voyais. Et je les ai aimées, ces scènes-là. Enfin, en tout cas, j'ai aimé les écrire, m'y plonger.
Maintenant, sachez, Eric, qu'on dit présent et non plus maison. Voilà.
Ah ben je pense que dans ce cas-là, ce n'était pas forcément une prison. Je
Non, je
crois
sais.
que peut-être que celle de Tarek l'était davantage. Mais oui, j'ai beaucoup aimé les petits mots d'esprit de Léna.
On n'a pas encore parlé de cette histoire d'amour parce que c'est aussi un roman sur cette belle histoire entre Tarek et Ali. Dans un pays où, comme dans d'autres pays, malheureusement, l'homosexualité était clairement réprimée. C'est aussi un roman qui permet d'entrouvrir cette porte-là, finalement, et aussi de faire entendre ces voix-là dans un pays qui n'était pas forcément propice à ce genre d'amour.
Pour moi, c'est important de faire entendre la voix de mes personnages. La voix de mes personnages. C'est-à-dire, je raconte une histoire, je veux qu'on entende la voix de mes personnages, je veux qu'on sache leur vérité. Il y a des personnages qui n'ont pas de bon rôle, mais je veux qu'on les comprenne. Je veux qu'on comprenne ce qui les motive. Il n'y a aucun personnage qu'on peut détester intégralement dans ce roman, je pense. En tout cas, si c'est le cas, je n'ai pas réussi mon travail. Parce que j'essaye de les rendre dans leur justesse. Et je voulais rendre aussi la voix de ces deux hommes qui sont aimés dans cette Égypte très traditionnelle-là. Mais ce n'était pas un message politique, il n'y a pas de vocation autre que raconter mon histoire. Mais cette histoire-là, cet amour-là que personne n'acceptait, ni la société, ni la famille, ni la communauté, je voulais que les gens puissent rentrer dedans. Même si l'homosexualité n'est pas leur quotidien ou une réalité qui leur est proche, même s'ils n'ont pas connu l'Égypte, etc., etc. C'est important. C'est important que le lecteur ou la lectrice m'accompagne dans cette voiture où un premier baiser serait échangé. Et c'était important qu'en dépit de tout ce que ça allait produire et qu'on pouvait pressentir en tant que lecteur ou lectrice, on ait envie que ce baiser soit échangé. Et moi, je pense que mon plus gros défi, c'était celui-ci. C'était d'arriver à ce que le lecteur ou la lectrice comprenne que cet homme qui était heureux dans sa vie, qui ne cherchait pas à en sortir plus que ça, qui avait fait un mariage d'amour, etc., à un moment puisse être touché par cet autre et puisse tomber amoureux et d'un amour qui finirait par tout transcender. Et c'est ça que j'avais envie de raconter.
Et c'est encore plus intéressant que vous disiez ça, puisque Tarek ne connaît rien à l'homosexualité, justement, et il est totalement étranger à ce monde-là. Et c'est ça qui en fait aussi peut-être un personnage encore plus marquant, je pense, pour les lecteurs.
Oui, et puis ça rejoint aussi une certaine époque où l'homosexualité était totalement tabou dans ce pays. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, elle est absente intégralement du code civil égyptien, ce qui n'empêche pas de mettre en prison des homosexuels, mais alors sur des motifs un peu fumeux de débauche ou autre. Mais voilà, il y a une sorte de grand tabou, ça n'existe pas. Ou alors, si on en parle, c'est vraiment soit sur le mode de la plaisanterie grivoise, soit sur le mode de la décadence de l'Occident, ou je ne sais quel autre angle d'esprit. Et j'avais envie d'imaginer cette réalité-là qui est taboue, qui est transparente, sur laquelle il y a assez peu de documentation qui existe. J'avais envie de l'imaginer les lieux dans lesquels elle se produisait, imaginer ce qu'impliquait ce genre de relation. Le paradoxe, c'est que c'est des pays où deux hommes peuvent facilement se tenir la main dans la rue, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont en couple. Et donc, je voulais reconstruire un peu cet amour qui n'a pas le droit d'exister et qui essaye de se suffire des quelques lambeaux de liberté qu'on lui donne et qui finalement se dit non, ça ne me suffit pas et va plus loin.
Alors, il y avait une question de Muriel que j'avais aussi notée, c'était les choix de suffixes au prénom de Mira, notamment Mira Mauvaise Foi, Mira Ange de l'Apocalypse. Là aussi, mon préféré reste Mira Mauvaise Foi. Mais justement, cette volonté-là, pourquoi avoir choisi ce prénom et peut-être pas d'autres, comme le dit Muriel? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Comment vous avez fait ce choix-là? Est-ce que vous vous êtes aussi amusé? Ça a donné une touche aussi d'humour à ce prénom-là et à la manière dont elle était au quotidien.
Oh, est-ce que le choix du prénom? Oui, je pense qu'il y en a un ou deux où je joue un petit peu sur la sonorité de Mira. Je crois qu'il doit y avoir un Je vous salue Mira ou un Mira pleine de grâce ou un truc comme ça. Alors c'est drôle parce que moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes cousines. Parfois j'en ai une qui est de mauvaise foi. Je lui dis Mélissa, mauvaise foi. Enfin bref, dans nos conversations WhatsApp, ça se passe comme ça. Et c'était quelque chose que je fais depuis longtemps. Et un jour, je suis tombé sur une critique du livre où quelqu'un disait, Tiens, ça me fait penser à un autre livre qui
Celui de
s'appelle La nuit
Lenagar.
carnivore.
Celui de Lenagar aussi.
Ah, c'est vrai, je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas, la conversation de tout à l'heure m'en a donné envie. Non, La nuit carnivore d'Agustín Gómez Arcos, où il y a un personnage, je pense qu'il s'appelle Clara, où il utilise un peu le même procédé. Et je me suis dit, mais oui, c'est un livre que j'avais lu il y a assez longtemps. Peut-être que c'est une inspiration involontaire qui vient de là. Mais je sais que c'est quelque chose que j'utilise beaucoup dans ma famille, avec ma petite sœur, avec mes cousines, etc., dans les conversations. Parce que parfois, je trouve qu'à travers un surnom, on est capable de donner un peu l'état d'esprit d'une personne sur un moment. Et l'autre chose, c'est que j'avais deux personnages, Nesrine, la sœur, et Mira, l'épouse, qui sont assez proches parce que ce sont toutes les deux des femmes qui sont très en avance sur leur époque, beaucoup plus dégourdies que les hommes qu'elles côtoient, qui ont des idées, qui ont de l'envie et qui vivent dans cette société traditionnelle qui les contraint beaucoup. Et le risque, quand on a deux personnages qui sont proches, c'est qu'on les confonde un peu en tant que lecteur. Et c'était aussi une manière de ramener Mira, là on sait qu'on est en train de parler d'elle parce qu'on retombe sur ce petit surnom. Donc voilà. Mais tout ça, ce sont des intentions que je me suis découverte après coup. C'est toujours compliqué de savoir au moment où on écrit pourquoi on fait les choses. Je me suis peut-être construit un petit récit autour de ça.
Alors, et pour ma dernière question, Eric, j'aimerais savoir justement quel auteur, quel livre méconnu vous avez décidé de mettre en avant.
Alors, un livre qui est pas tellement méconnu au Québec, mais qui l'est sans doute beaucoup plus de votre côté de l'Atlantique, qui s'appelle La fille d'elle-même. Alors, en même temps, je vous le montre, mais c'est la couverture québécoise. Je pense que celle qui est sortie il y a quelques mois chez Lattès est un peu différente. De Gabrielle Bouliane Tremblay, qui est une autrice québécoise. Je crois que c'est son premier roman. Et c'est une autrice qui a réalisé une autofiction autour de la thématique de la transidentité. C'est une sorte de roman d'apprentissage, son parcours à elle, comment est-ce qu'elle est. Et c'est écrit avec beaucoup de tendresse et beaucoup de simplicité. Et je trouve que c'est un livre. Alors, c'est sans doute un livre important, mais avant d'être un livre important, je pense que c'est un livre extrêmement émouvant. Moi, je sais qu'il m'a provoqué une sorte de décharge électrique pendant toute la lecture. Voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de thématique, je pense que c'est une chouette lecture parce que moi, il m'a bouleversé.
Et il y a une dernière question de Lisa. C'est à toi, Lisa.
Oui, bonsoir. Merci pour
Bonsoir,
votre présentation
Lisa.
déjà, parce que c'est très bien, enfin, c'est très bien expliqué. Et voilà, moi j'ai lu votre roman et je l'ai trouvé fantastique. Et je voulais revenir sur deux choses, sur l'extrait que vous aviez souhaité présenter, en fait, voilà, que vous avez lu sur l'enfance et l'âge adulte, et sur ce que vous avez dit aussi à ce propos, parce que en fait, je me trouve justement un peu dans ce moment de flou entre la vieille adolescence et puis le nouvel âge adulte. Et en fait, j'ai trouvé vos mots dans le livre très juste à ce propos sur les adultes qui sont en fait tous des enfants, mais dans leur avec leur persuasion et leurs idées préconçues de la vie qu'on leur a imposé. Donc ça m'a beaucoup touchée, et ce que vous avez dit aussi à ce propos. Et j'ai une question, parce que je vois aussi derrière vous qu'il y a beaucoup de musique et qu'on retrouve beaucoup de musique aussi, de mentions musicales dans votre livre. Je me demandais si vous aviez aussi d'autres, si vous avez été inspiré par d'autres formes d'art que la musique, parce que quand j'ai lu votre livre, j'ai aussi vu plein de couleurs, plein de parfums. Et en fait, je me suis demandé, je l'ai trouvé très artistique en fait.
Eh ben merci Lisa pour ce retour, ça me touche beaucoup. Oui, je pense que sur l'enfance, c'est quelque chose de. Alors, ce sont jamais que des petites réflexions que je me suis faites. Je m'attendais pas à ce que. C'est drôle parce que c'est un extrait qu'on me cite souvent, donc je finis par le lire quand on me demande une lecture. J'avais pas conscience que ça toucherait autant les gens. Et je pense que oui, à partir du moment où on commence à ne pas voir les adultes comme des adultes ou à se rendre compte que derrière chaque chose qu'un adulte dit, il y a souvent l'enfant qu'il était et qui n'a jamais complètement grandi et qui n'est jamais complètement sorti des problématiques qu'il avait, des doutes qu'il avait, des questions qu'on. Eh ben, on voit le monde un peu différemment et je pense que c'est pas grave d'être encore un enfant longtemps. À certains égards, c'est quand même assez chouette. Et pour les influences, on me demande souvent quelles sont mes influences littéraires, et c'est vrai que mes influences sont pas toujours très littéraires. Elles sont souvent, moi, je suis pas un très très grand lecteur, mais je pense à beaucoup d'autres formes d'art. Donc la musique, vous en parliez. Il y a un extrait qui est vraiment inspiré d'une chanson d'Orelsan où il dit simple, basique, etc. Puis je trouve que c'est une construction qui est super forte. Donc j'ai essayé d'en faire quelque chose un peu à ma manière et puis de le changer. Ça peut être le théâtre. Il y a vraiment la trame de Roméo et Juliette qui, je ne peux pas trop en dire parce que beaucoup de lecteurs et de lectrices ce soir n'ont pas lu le livre en entier, mais voilà, la trame de Shakespeare est pas mal celle de mon roman. Et puis le cinéma aussi parfois. Il y a cette scène, par exemple, dans le Cercle des poètes disparus, qui est une scène, je pense que toutes les personnes qui ont vu ce film, c'est la scène qu'ils visualisent tout de suite, celle où le directeur vient annoncer que le professeur va être renvoyé. Et donc il arrive au milieu de cette classe, il explique que Le professeur s'est mal comporté, que par conséquent, il sera renvoyé, etc. Donc tout le monde l'écoute dans une sorte de stupeur partagée. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui rompt cette espèce de stupeur qui frappe la classe et qui se lève sur son bureau, enfin sur sa chaise, et qui commence à dire quelque chose en signe de protestation. Et puis tout le monde le regarde comme ça, un peu interdit. Et il y a une deuxième personne qui le suit. Et puis une troisième, puis on se retrouve avec à peu près les deux tiers de la classe qui finissent par faire le même signe de protestation. Et je pense que toutes les personnes qui ont vu cette scène en ont gardé une émotion qui est extrêmement forte. Et moi, je me suis dit, tiens, un truc comme ça, comment est-ce que je peux essayer de me le réapproprier à ma manière et puis de l'intégrer dans mon histoire? Et ça a donné la scène, par exemple, du retour au Mohattam où il revient et tout le monde le voit et tout le monde est comme confiné dans une sorte de stupeur où on ne sait pas exactement comment réagir, est-ce qu'il va rester, pas rester, on comprend qu'il va partir et voilà, il y a un mélange de tristesse et en même temps d'étonnement. Et puis il y a une fille qui commence à chanter cette chanson de Dalida, on en revient à la musique, et puis tout le monde la regarde un peu étonnée, puis les gens finissent par l'accompagner, ceux qui connaissent les paroles y vont, les autres tapent dans leurs mains. Et voilà, donc parfois il y a des formes d'art qui viennent, qui contaminent. Et j'essaie toujours de me demander quand quelque chose me touche, s'il y a une manière, déjà, qu'est-ce qui a fait que ça m'a touché, et s'il y a une manière de le réutiliser qui est congruente avec le récit.
Merci beaucoup pour votre réponse.
Merci
Merci
Eric.
Lisa.
Tant que vous êtes les trois encore là, on va prendre une photo de groupe comme on en a l'habitude.
Ah.
Voilà, la photo de groupe, elle arrive. Trois, si vous avez les livres, c'est le moment de les mettre en avant. C'est parfait. Merci. Merci infiniment Eric et bonne chance à vous pour ce prix Première Parole. Et on va passer à la troisième autrice, c'est Isabelle Garraud pour La Dent Dure aux éditions d'Alva. Alors Isabelle, d'ailleurs vos trois livres auraient pu bénéficier d'une playlist dans trois univers totalement différents, mais clairement on a envie de vous lire avec une musique qui nous accompagne tout au long. Alors il y en a beaucoup chez Eric et Léna, il me semble que chez Isabelle il y en a peut-être une ou deux qui s'y cachent, mais j'ai un doute maintenant. On verra. Isabelle, il faut juste que vous rallumiez votre micro.
C'est fait.
Et
Bonsoir.
voilà, ça fait. Bonsoir Isabelle. Alors
Bonsoir.
Isabelle, un tout autre registre avec La Dent Dure. Vous êtes spécialiste en littérature médiévale et on comprend évidemment quand on vous lit que ça fait partie de des cordes qu'il y a à votre arc. Vous présidez également une école de cirque et vous avez enseigné au collège une vingtaine d'années apparemment, de ce que j'ai cru comprendre. J'aimerais que vous nous parliez de la genèse de ce roman parce que là, clairement, on est sur un sujet totalement quasiment innovant. Sincèrement, j'ai jamais lu un tel roman. Comment on crée ce type de roman? Est-ce que c'est votre formation en littérature médiévale qui trouve le phénomène intéressant et qui ensuite fait découler une certaine littérature et une matière romanesque? C'est votre premier roman aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'étape d'après, écrire?
Bah, il est sûr, il est certain que c'est mon travail de recherche en histoire médiévale, il y a une vingtaine d'années maintenant, donc c'est quand même assez ancien, qui a été le ferment de mon écriture. C'est-à-dire le premier travail d'écriture d'ampleur a été ce travail de thèse qui était, alors qui travaillait sur le thème enfin, des saints, évidemment, des vies de saints. Ça, je pense qu'on le retrouve quand même assez fortement dans le roman, et sur le parcours des reliques, et sur les origines du roman. Du roman 1150, vraiment le début de ce qu'on a appelé roman, et qui va devenir au fil des siècles notre roman romanesque. Donc, c'est vraiment ces années-là, donc moitié du XIIe siècle, où on a une forme nouvelle qui naît, et qui naît par amalgame avec tout un tas d'autres types de récits, hein, donc des vies de saints, des poèmes, des contes oraux, des récits latins. Enfin bon, il y a une espèce d'effervescence à ce moment-là, et qui ne tient pas compte du genre. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de genre. Et c'est ce que j'essayais de rendre de mon côté. Je crois que c'est un peu. C'est à la fois un roman, un conte. Il y a des poèmes aussi que je fais passer en contrebande à l'intérieur. Donc, oui, c'est ce travail de thèse qui a fermenté, qui a, mais dont je n'imaginais pas du tout qu'il devienne un roman un jour. Et l'origine, elle est venue brutalement. Il n'y a pas eu tellement de préméditation. Donc, j'habite sur la Seine et c'est vrai que me baladant sur les bords de Seine, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui se passait là, au XIIe siècle ou encore plus avant, comme dans la Dent Dure qui commence au 8e siècle. Et donc, je me mets en position, je dis, mais qu'est-ce qui se passe sur cette Seine? Évidemment, des Vikings, des hameaux, des voilà. J'ai commencé vraiment à visualiser la première scène comme ça. Et puis très vite est apparu un personnage de jeune fille assez tragique, une espèce de figure un peu l'ancêtre de la sorcière, on va dire, très proche de la nature. Voilà. Et puis très vite, je me suis dit, il faut la venger, comme vous parliez tout à l'heure de vengeresse. Donc effectivement, après, le travail pour moi était de déjà d'élucider le mystère de cette relique, cette petite dent qui apparaît assez rapidement, et donc à qui appartient-elle, de quelle époque et de quel lieu vient-elle. Et donc voilà, du coup après j'ai fait des grands bonds temporels, j'ai sauté 1200 ans et hop, on passe à la suite. Et puis là, je me suis dit, ah, je vais peut-être revenir 1200 ans encore avant pour montrer un cycle d'oppression sur le long terme, d'oppression patriarcale, pour le dire clairement. Donc sur le long terme, essayer de démonter un petit peu ces mécanismes. Et aussi réécrire dans les lignes des récits qui ont été faits par les hommes de tout temps. C'est-à-dire me réapproprier notamment ce thème de la vie de saint, qui est donc un peu un laboratoire d'exemplarité, hein, qu'on destine aux hommes ou aux femmes d'ailleurs. Et donc, moi, je me disais, mais non, mais c'est qui ces femmes, en fait? C'est pas juste des vierges qui meurent, qui voilà, c'est pas juste ça. C'est qui sont ces femmes réellement? Et donc, voilà, essayer d'imaginer la vie de ces saintes, enfin, de ces héroïnes, en fait.
Alors justement, parce que quand on vous lit, moi sincèrement, j'ai tout gobé. C'est clair, j'ai tout cru. Sincèrement, on croit à tout ce qui se passe dans ce roman-là. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas finalement dans la matière historique, dans vos matériaux de recherche? Est-ce qu'il y a des choses réelles finalement ou est-ce que la matière est totalement inventée dans ce que vous avez écrit, Isabelle?
A priori, tout est inventé. Mais bon, parfois, le réel nous rattrape. Sur la partie historique, 752, oui, les Vikings, oui, ça c'est vrai. Après, les noms de lieux, les noms de personnages, tout ça est fictif. Et sur la dernière partie, il y a des éléments historiques, puisque là, je me suis servi d'un livre de l'Ancien Testament. Entre les lignes duquel j'ai ajouté des personnages féminins. Donc là, pour la partie perse, il y a une partie historique sous le règne de Xerxès II. C'est Assuérus, voilà. Mais je me suis contrainte à faire peu de recherches parce que c'est jusque-là, c'est ce qui m'avait noyée dans mon désir d'écrire. J'avais cette déformation prof et thésarde qui fait que tout ce qu'on écrit, plan, justification, source, etc. Et là, je n'en pouvais pas. À chaque fois que je commençais à écrire un roman, j'étais noyée par ces informations. Donc là, je me suis dit, non, tu vas y aller comme ça. Et donc, a priori, tout est faux.
C'est bien que j'y ai cru en tout cas. Ça veut dire que l'écriture est bonne. Non, mais c'est intéressant que vous parliez de votre la différence justement entre l'écriture académique et l'écriture littéraire. Est-ce que finalement ce premier roman c'est une sorte de nouvelle vie pour vous extrader totalement de cette écriture académique universitaire?
Complètement, hein. J'avais vraiment besoin d'exploser ça pour me libérer. Et j'entendais Eric qui disait tout à l'heure, j'ai besoin d'un plan, et après j'ai écrit. Et moi, au contraire, ça m'a toujours bloqué. Je faisais des plans avec des personnages, des traits, des arcs narratifs. J'ai jamais dépassé les 30 pages. Et donc là, j'ai décidé de pratiquer complètement autrement et surtout de ne pas faire de plan. Alors, j'ai déroulé des images à la main, et puis je les jetais par terre comme ça, et puis au bout d'un moment j'avais plein de petits tas avec plusieurs images. Et par contre le montage, il se fait, oui, comme un montage de film. Et puis après c'est la couture, comme disait Eric, et au Moyen Âge c'est la conjointure, donc c'est vraiment la broderie entre les images, quoi, voilà, l'écriture.
Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter le destin de ces trois femmes que sont Aléa, qui débute le roman, cette guérisseuse anachorète du 8e siècle, où les Vikings, justement, sévissent, et puis ensuite parler évidemment d'Éléonore, puisque le roman lui est quand même beaucoup consacré dans les années 80, ce qui est peut-être, comment dire, qui est peut-être celle qui se rapproche le plus de notre époque, quoique, on verra ensuite, mais cette adolescente qui est pleine de vie, qui subit l'enseignement religieux notamment, et celui peut-être de ses parents, elle va vouloir s'en extraire le plus vite possible, et Mcheta. Je pense que je le dis bien, cette conteuse qui est prisonnière d'un sultan perse. Trois destins qui sont réunis dans ce roman finalement. Comment ces personnages de femmes vous sont-ils apparus? Est-ce qu'on peut parler peut-être de... Je sais que les éditions d'Alva ne publient que des autrices et ont pour but aussi de faire exister ces voix féminines qui ont existé à travers le temps. Et Juliette Ponce qui est là ne me contredira sûrement pas. Justement, est-ce qu'on peut les considérer dans votre roman comme finalement les premières féministes de l'histoire? Est-ce que ça fait partie aussi d'une volonté historique, romanesque, qui font que ces femmes-là ont aussi compté, même si elles n'existent pas, mais en tout cas, dans votre esprit, les personnages sont tellement, j'imagine, imprégnés que vous y croyez, vous aussi, j'en suis sûr.
Oui, bien sûr. Après, dire qu'elles sont féministes, ça me semble un petit peu anachronique, hein. Ce n'est pas des activistes, hein. Elles essayent juste de s'en sortir et de survivre. Et ça ne marche pas à tous les coups, d'ailleurs, hein. Donc, bah, évidemment, ces femmes ont compté. Et dans les récits que j'en fais, enfin, pour les deux parties historiques, c'est-à-dire les âges mérovingiens et puis les âges perses antiques, ce sont des femmes qui peuvent arriver à trouver une certaine forme de liberté dans ce qu'elles font, et c'est déjà un miracle, hein, on parle de sainte. Le miracle, c'est d'arriver à survivre quand on a 12 ans et qu'on vit dans la forêt. Voilà. Donc, dire qu'elles sont féministes, non, non. Non, non, mais elles comptent, bien sûr, et elles n'ont que trop peu compté dans les histoires qui ont été faites du Moyen Âge ou de la Perse antique, ça c'est sûr.
Est-ce que tout à l'heure vous avez parlé de conte, et en effet, on peut le lire ainsi, on peut le lire comme un conte ou un roman, finalement peu importe, mais dans tous les cas, j'ai eu l'impression que vous convoquez notre triste réalité dans toute sa noirceur, qui est passée et actuelle. On se reconnaît beaucoup dans ce roman, c'est évident que la société, notamment celle d'Éléonore, on s'y reconnaît beaucoup alors qu'on était dans les années 80, et finalement ça existe encore, il y a encore beaucoup de choses. Qui doivent être dénoncés. Ces personnages-là, finalement, vous les avez composés comme un conte, mais est-ce que c'est pas quand même beaucoup plus subtil qu'un conte? On a l'impression qu'il y a quand même quelque chose qui innerve totalement la matière romanesque. On sent que vous faites passer quand même certains messages. Alors, je sais que les écrivains n'aiment pas qu'on dise qu'ils font passer des messages, mais la littérature est quand même un message. Pour le coup, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette volonté de faire exister Éléonore dans ces années 80 et de dénoncer aussi ce système anti-religieux?
Alors, déjà, ces femmes se trouvent en possession d'une relique, et les reliques sont faites de récits. Donc, déjà, pour moi, l'idée était de faire un roman sur les récits. Donc, on a aussi bien Les mille et une nuits, plutôt l'ambiance mille et une nuits à la fin qui est convoquée. La voix de la première, du premier personnage qui est pas encore, qui est une parole première, qui est plus proche d'une parole sauvage, qui chante avec les oiseaux. Enfin, il y a un côté comme ça, voilà, l'ancêtre de la sorcière, on va dire. Et quant à Éléonore, c'est elle qui. J'ai voulu quand même donner un moment, un personnage. Qui a une ampleur géographique, qui se déplace beaucoup et qui construit son propre récit, qui construit son propre destin, en tout cas, en essayant d'élucider, ce récit, le mystère de l'Adam. Je ne sais pas si je réponds très bien à votre question, Anthony. Donc ces personnages-là, en fait, je voulais vraiment montrer sur le long terme que les oppressions de la plus doucereuse, parce que Mshéta est dans le harem du sultan, ils sont bien nourris, voilà, donc c'est doucereux, mais elle est destinée à faire potiche dans la salle des banquets, quoi. L'oppression la plus terrible, qui est bon, les scènes qui se déroulent au début du roman avec les Vikings. Et puis au milieu, on a tout le processus, la psychiatrie, les internats pour jeunes filles, le qu'en dira-t-on des parents, enfin tout ce petit dressage, toute cette contention, ce corsetage mental qui se met en place. Donc voilà, je voulais vraiment. C'est pas un roman contre les hommes, hein, mais j'ai pris voilà le père de famille, le curé, l'empereur, le pope. Enfin voilà, j'ai pris différentes figures pour montrer un système global. Enfin, hélas.
Il y a même cette fameuse illusion du féminisme dans les années 80. Vous écrivez Madame Bondoufle, née Charité, exerçait le métier de femme de notable avec zèle. Les réunions Yves Rocher et Tupperware battaient leur plein et instauraient de façon insidieuse l'illusion qu'il existait un contre-pouvoir féminin. Ça, c'est génial.
Merci, si ça vous
Mais oui,
plaît.
mais c'est tellement ça, c'est tellement cette image-là, cette manière de montrer que. Il n'y avait que de la poudre de perlimpinpin, comme le dit si bien notre cher président. Pour le coup, il y a cette illusion du féminisme qui commence à naître dans ces années 80, et finalement, ça ne se déclenche que 20 ans, 30 ans après. Vous le montrez très bien aussi à l'instar de cet enfermement que vous décrivez.
Bah, je montre aussi, il y a des femmes, hein, ce que j'appelle les brebis qui bêlent avec les loups, en fait, hein. Il y a aussi, je veux dire, une fonction patriarcale dans une société, elle peut aussi être occupée par une femme. Donc, oui, l'illusion qui est du féminisme, mais encore une fois, je ne peux pas dire qu'Éléonore est féministe. Par contre, c'est une femme, il y aura. Qui va se lever et qui va venger. Et moi, en écrivant le livre, je voulais aussi venger bon, les devancières, les femmes du passé dont on n'a pas parlé, quoi.
Et à cela s'ajoute le cadre principal, c'est cette fameuse dent qui donne évidemment le jeu de mots de la dent dure. Ce qui vous réunit tous les trois ce soir, c'est quand même les jeux de mots, hein, mine de rien. La dent dure, cette dent, ce trésor un peu inestimable qu'Éléonore trouve alors qu'elle est enfermée, qui fait penser aussi, alors je sais pas, je ne connais pas encore vos influences, Isabelle, sur cet objet-là, sur cette relique, mais ça fait penser aussi peut-être à l'anneau de Tolkien. Où on imagine peut-être Gollum récupérer cet anneau, terré chez lui. Cet objet qu'on pense mystique, mais cet objet, il a une valeur encore plus cardinale à mon sens, c'est que, comme vous l'écrivez, il permet de reprendre le contrôle sur sa vie. C'est ça en réalité, cet objet-là lui permet de changer de cap. Est-ce que ça vous est aussi arrivé qu'un objet puisse avoir autant de pouvoir finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose aussi derrière cette volonté de mettre la dent? Cette fameuse dent au cœur du récit comme une quête mystique.
Alors moi, un objet comme ça, non, non. En revanche, j'ai vraiment beaucoup cherché, enfin j'ai beaucoup travaillé sur la circulation des reliques et les récits afférents. Je me suis très vite rendu compte qu'un saint, par exemple, pouvait avoir quatre coudes et deux crânes, hein, ça pose pas tellement de problème. Et pour que ça existe, ça ne tient que par la fiction. Et donc cette dent. je l'ai pris exprès toute petite. Déjà, ce sont des jeunes filles, hein. C'est pas vraiment des femmes, hein, parce que les héroïnes, ce sont des très jeunes filles. Donc, une petite dent pour montrer le lien ténu, hein, qui les unit, et en même temps qui permet de mordre, de faire des brèches, dans son destin. Donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était tous les récits qui sont faits autour de cette dent et quasiment l'impossible élucidation de son origine. Enfin, on a quand même la révélation à la fin, mais voilà, ce qui m'intéressait, c'était de montrer le cheminement des récits autour d'un tout petit objet qui va durer sur 2000, 3000 ans. Voilà.
Le cheminement et surtout aussi les mensonges autour des récits.
Bien sûr.
Ça existe vraiment? Est-ce que des hommes d'église ou d'État, enfin pas des hommes d'État, des hommes d'église ou archéologues ou autres dans la matière mentent sur les récits, inventent des récits et les revendent ensuite? Est-ce que ça existe vraiment?
Oui, alors c'est pas vraiment qui mente, c'est que un récit, une vie de saint, donc qui est vraiment un genre très très répandu au Moyen Âge, et qui va dériver peu à peu vers le roman d'ailleurs. Et c'est pas qui mente, mais il y a un canevas précis, et donc il y a un canevas qui est immuable. Voilà, pour une femme, c'est toujours, elle a vécu chaste et elle est morte dans d'atroces souffrances. Et voilà. Donc, c'est pas qu'ils mentent, c'est qu'ils essayent de faire un laboratoire d'exemplarité. Et donc, si on suit leur idée à ces hommes d'église qui écrivent, enfin ces copistes ou autres, l'aphasie, interdiction de prendre la parole en public, le corps c'est mal, etc. Affirmer sa féminité c'est mal. Donc voilà, donc c'est ça que j'avais envie un peu de changer. Ouais, si si, ça existe ça.
C'est inquiétant.
Et puis pour les passages de la Bible que j'utilise à la fin, enfin bon, c'est clairement aussi pensé par des hommes. Enfin, donc c'est pour ça que j'immisce des femmes et puis je leur donne le premier rôle au lieu de les voir dans l'ombre. Elles existent.
Et vous mettez également l'accent sur l'enfermement, notamment l'enfermement religieux, l'endoctrinement religieux, et notamment les sévices qui sont faits au sein de l'Église, où notamment il ne fallait pas poser de questions, une omerta totale, malgré les faits abominables qui s'y tramaient. Il faut se taire, il faut être véritablement un soldat de l'Église. C'est aussi quelque chose que vous vouliez mettre en avant au cœur du personnage d'Éléonore.
Oui, ben évidemment, parce que bon, c'est tombé. Enfin, juste après, il y a eu le rapport Sauvé sur les violences, sur la pédocriminalité dans l'Église, qui a donné des chiffres tellement fous que, parce que moi, on m'a reproché que c'était violent. Mais bon, s'il y a un crime, on montre le crime. Et oui, j'avais envie d'enfoncer le clou. Voilà, j'avais envie d'enfoncer le clou. On m'a déjà dit, oui, pour vous, tous les curés, c'est des pédocriminels. J'ai dit non, mais enfin, quand même, j'avais envie oui, de le dire, de le venger, et de leur faire du mal. Avec les mots.
C'est bien réussi. C'est aussi, en fait, on l'interne aussi parce qu'on la pense hystérique, on la pense malade. C'est aussi cette volonté-là de. C'est vrai qu'à une certaine époque, c'était véritablement le cas. Les femmes, peu importe leur mal, étaient enfermées et on les traitait d'hystériques à tort et à travers sans raison aucunement scientifique, aucune raison scientifique. Ça aussi, c'est quelque chose d'important dans le récit parce qu'on sent l'injustice, on sent ce personnage-là continuer d'exister et tenter de fuguer, de totalement partir de sa propre condition, sa condition qui est évidemment issue de ses parents aussi et du système clérical dans lequel elle est. Ce personnage-là, il est quand même extrêmement fort. Il aurait pu même être totalement. Il aurait pu faire l'objet d'un roman à lui tout seul, finalement. Est-ce que vous vous êtes posé la question de la disparité entre les personnages, du fait qu'Éléonore devait prendre toute la lumière? Est-ce qu'il y a une question aussi éditoriale, peut-être avec Juliette, par rapport à cette construction de roman?
Bon, question éditoriale, Juliette, elle m'a laissé vraiment carte blanche et vraiment ça, c'est très rare, je pense, chez des éditeurs, des éditrices. Non, c'est que j'avais conçu le livre un peu, je voyais un triptyque, en fait, vous voyez, ça s'ouvre comme ça, donc on a deux petites parties. Les Mérovingiens et les Perses antiques, et au milieu, on a le grand tableau, les années 80, donc ça prend plus de place. Et c'est vrai que c'est pareil, j'ai quelques lecteurs et lectrices qui m'ont dit, c'est dommage, on voulait savoir plus sur... Donc c'est un petit roman, donc ça va très très vite, hein, donc ça va très très vite, ça va peut-être un peu trop vite, mais je vous dirais que le personnage central... Oui, il m'a appelé et c'est l'objet d'un deuxième roman. Pas exactement le même personnage, mais bien sûr, j'ai senti que là, il fallait que je développe toute cette période de squat dans les années 80, 90. Voilà.
Parfait, on a une exclusivité. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait, Isabelle?
Oui. Alors, j'ai pris un extrait que je ne lis jamais. On m'a
Eh bien, c'est
dit
parfait.
1 minute 30. J'ai pris un petit. Donc, c'est dans le pass... c'est dans la partie Éléonore, donc la partie années 80. À la vue de l'ancien tablier couvert de moisissures, où était brodé l'insigne honni du cœur saignant de Jésus, les sévices qu'elle avait subis au nom de l'expérimentation de méthodes rééducatives sur les corps des filles, colonisèrent sa mémoire, prirent d'assaut son esprit en une seule bouffée de terreur. C'était toujours là, ça aussi. Elle était en sueur. Munie de son fétiche, elle regagna Paris, grâce à un camionneur polonais avec qui elle avait bien ri malgré la barrière de la langue. Elle atterrit porte de la Villette, dévora un kebab, descendit le canal de Saint-Denis, passa au Béjaïa, d'où elle était partie la veille. Fitch était absent. Sans elle, il ne foutait probablement rien quelque part. Elle griffonna un message et partit, saluant le patron du bar. Continua vers le port de la Râpée. Elle connaissait un ami de Fitch là-bas, un dealer qui fournissait les pains de shit, la monnaie de Paname. Il allait et venait tous les mois entre les Pays-Bas, la Belgique et la France, avec un 12 mètres bien lesté. Sa péniche était là, hublot éclairé. Elle toqua. Vic, pour Viking, parce que bêtement il avait les yeux bleus et un bateau, fit glisser la porte en bois de la cabine. Ah, c'est toi, ben entre. Elle avait un plan. Son ancien receleur avait évoqué un jour, devant elle, que pour tout ce qui concernait le trafic de pierres précieuses, c'était à Anvers qu'il fallait se rendre. Et que le meilleur des fourgues là-bas, c'était un Indien, un pote à lui, si d'aventure Fitch et elle se décidaient à chourer autre chose que de la pacotille dorée. Alors elle avait pensé à Vic. Et pour tout passeport, elle serrait en secret son improbable relique sous son t-shirt.
Isabelle. Alors justement, ça me donne l'occasion de parler de Fitch. Évidemment, c'est une rencontre importante, Fitch, qui lui donne peut-être l'élan pour sortir de sa condition, lui donne beaucoup de courage, j'ai l'impression. Ce personnage-là, il est extrêmement important. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce personnage de Fitch?
Oui, alors c'est vraiment génial que vous en parliez parce que personne ne me parle de ce personnage
Dommage.
et c'est quelqu'un qui, bah déjà, elle va se retrouver dans un univers par lui, elle va se retrouver dans un univers où il n'y a que des garçons, mais où bizarrement, elle se sentira extrêmement en sécurité. Enfin, pas bizarrement, c'est parce que ce sont des garçons qui s'extraient eux-mêmes, des garçons déconstruits, on va dire, même si à l'époque, on parlait pas comme ça. Et donc, Fitch, c'est aussi lui qui va la faire renouer avec le désir, avec sa sexualité aussi. Donc, ça, c'est extrêmement important de se réparer à ce niveau-là.
C'est vrai. Alors, pour une dernière question, Isabelle, quel auteur, quel livre méconnu vous avez décidé de mettre en avant? Peut-être un auteur médiéval?
Oui, alors justement, je pensais, quand vous m'avez dit ça, j'ai pensé aux auteurs méconnus, la patrie reconnaissante. Mais c'était un peu ça, parce que toutes ces années-là, bon, on a le nom, par exemple, de Chrétien de Troyes, qui est la célébrité, la star du roman au XIIe siècle, mais sur l'énorme masse de ces manuscrits. trois ou quatre noms surgissent, mais la plupart sont des. Et c'est ça qui m'a plu, c'est toujours un work in progress. La littérature à ce moment-là est énormément bouillonnante, foisonnante. On recopie les textes, mais on rajoute des trucs, on fait des continuations, on fait des préquels, vraiment comme on fait aujourd'hui pour les séries. Et donc, en fait, aucun de ces copistes ou écrivains troubadours ou trobérites, parce qu'il y a aussi des femmes troubadours, même s'il y en a très peu, aucun ne se considère comme propriétaire de son texte. Voilà. Et avec l'idée voilà, il n'y a pas de nom d'auteur avec une propriété intellectuelle. L'idée que tout ce patrimoine appartient à tout le monde. C'est dans ce sens-là que j'ai esquivé un peu la question en disant, voilà, c'est la masse de ces auteurs et autrices anonymes qui a fait qu'aujourd'hui on a des romans.
Décidément, vous êtes très surprenants, tous les trois sur cette question.
Je voulais quand même juste dire, si vous n'avez pas lu ça, de Céline Minard, Bastard Battle, au niveau de la création du langage médiéval, elle recrée une langue, mais c'est complètement fou et c'est voilà, vous êtes plongé en plein Moyen Âge et en pleine ripaille. Voilà, j'aimais bien.
Et celui-ci est trouvable en librairie et pas forcément, on n'a pas besoin d'aller chercher dans un sol terreux la trace de ce manuscrit. Voilà, donc ça c'est déjà quand même aussi un bon point. Merci.
Merci,
Merci.
Anthony.
Merci infiniment à tous les trois, Isabelle, Eric et Elena. Merci pour ce moment. Et évidemment, on vous souhaite bonne chance pour ce prix. Les lecteurs, j'imagine, vont vous lire dans les mois qui arrivent et vous ont déjà lu pour beaucoup. Mais là, je pense que le rythme va être encore plus soutenu. Eh bien, je vous envie, les lecteurs, de ne pas encore les avoir lus, parce que là aussi, vous avez trois ouvrages qui méritent véritablement une belle consécration. On vous souhaite le meilleur à tous les trois, et merci à Terre de Parole de continuer à faire confiance à Vlil. On vous embrasse et à bientôt pour le festival Terre de Parole.
Merci Anthony, au
Merci
revoir.
Anthony.
Au revoir à
Au revoir à
tous.
tous, une très belle
Au
soirée à tout le
revoir.
monde.